juristes diffèrent de nombreux points dans leur théorie, une erreur leur est cependant commune. Ils appliquent mal la prophétie et ça revient de ce qu'ils ne voient pas dans sa véritable perspective. Le prophète de l'Ancien Testament poursuivait à la fois un but immédiat et lointain. Dans les temps anciens, ils exprimaient la volonté de Dieu envers son peuple et annonçaient des événements se situant dans le futur, c'est-à-dire le destin d'Israël, la venue du Messie et l'établissement de son royaume. Le millénariste commet deux méprises fondamentales. La première, il croit que certaines prophéties sont messianiques alors qu'elles ne le sont pas. Et la deuxième, c'est qu'il place l'accomplissement de celles qui le sont vraiment à la même époque. Dans chaque cas, ces prophéties se projettent derrière le Nouveau Testament. Et leur accomplissement se produit durant un millénium hypothétique. Sans vouloir citer toutes les prophéties concernant Jésus-Christ et son royaume, il est toutefois essentiel d'en examiner certaines afin de comprendre leur dessein et de voir qu'il s'est réalisé dans le Nouveau Testament lui-même. Matthieu, chapitre 5, et verset 17. Au début de son sermon sur la montagne, Jésus se met à traiter d'emblée la question de la loi et des prophètes à la lueur d'une nouvelle dispensation. « Ne croyez pas, dit-il, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En Luc 10, 16, il dira, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. » Peu avant son arrestation, il prie et prononce, entre autres, ces mots, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Ces trois affirmations sont péremptoires. Ou bien Jésus a fait ce qu'il était venu faire, ou alors il n'y a pas réussi. Avancer que Jésus avait pour but d'accomplir les prophéties concernant le royaume, mais qu'il a décidé de retarder cet accomplissement, serait méconnaître la nature même de la prophétie. Moïse, sous la dictée du Saint-Esprit, disait déjà en Deutéronome, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Actes chapitre 3, versets 18 à 26. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, et son Christ devait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le verset 21 de ce passage est un des textes favoris du millénarisme, qui applique le rétablissement de toutes choses à l'époque du retour de Jésus-Christ. C'est retirer le verset de son contexte et lui donner une signification pour le moins hasardeuse et forcée. Le fait que Christ soit retenu au ciel d'où il est envoyé se trouve être étroitement lié à l'effacement des péchés et à sa résultante directe, les temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Verset 19. Jésus devait être envoyé au travers de la bénédiction ainsi obtenue. Le jour de la Pentecôte, ceux qui se repentirent et furent baptisés entrèrent en Christ. Et le Fils de Dieu pénétra en eux. À partir de ce moment-là, ils vivaient, habitaient dans leur cœur par la foi. Telles étaient les choses annoncées par les prophètes. Le verset 24 associe, on ne peut plus clairement, ces bénédictions à ce qui se passait alors, à ce moment précis. Tous les prophètes ont successivement annoncé ces jours-là. Dans le verset 25, le Saint-Esprit nous montre que ces jours-là représentent l'accomplissement de la promesse de faire bénir toutes les familles de la terre par la postérité d'Abraham. Le verset 26 dit bien que Dieu a envoyé Christ pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Les prophètes ont donc prédit qu'il viendrait une époque au cours de laquelle les hommes se détourneraient de leurs péchés, que ces derniers seraient effacés, et que ces humains vivraient alors les temps de rafraîchissement qui en découleraient tout naturellement. Projeter les temps du rétablissement de toute quelque chose dans le futur et tout simplement faire abstraction de tout le contexte dans lequel cette phrase, ce passage trouve sa place normale. Faire cela, c'est aussi repousser dans un avenir imaginaire et en blanc l'effacement des péchés, le temps de rafraîchissement accordé par le Seigneur, les bénédictions par la postérité d'Abraham et la possibilité de se détourner de ses iniquités. Dépouiller ainsi ces versets du chapitre 3 du livre des Actes de leur véritable signification serait nous priver du plus beau, du plus grand, du plus noble choix de bénédiction que Dieu nous offre par le canal de son Fils bien-aimé. Acte chapitre 13. À Antioche de Pisidie, Paul prêcha un sermon que les préméliénaristes devraient soigneusement méditer. Dans le verset 25 du chapitre 13 des Actes, on peut lire que Jean-Baptiste achevait sa course. Le verset 27, quant à lui, affirme que les habitants et les dirigeants religieux de Jérusalem ont accompli les paroles du prophète en condamnant Jésus. Et le verset 29 insiste encore davantage en disant qu'ils accomplirent tout ce qui était écrit de lui. Il y a ensuite une déclaration trop nette, trop tranchante, pour être mal comprise dans les versets 32 et 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. L'apôtre Paul, toujours dans la même homélie, établit la connexion entre la résurrection de Jésus et le don des grâces saintes promise à David. Il ajoute encore que c'est précisément par cet accomplissement en chaîne que le pardon des péchés est annoncé. Un simple examen objectif de ce passage du Nouveau Testament montre sans qu'aucun doute ne puisse subsister que les prophéties messianiques se dirigent dans le sens de la première venue de Christ, avec ce qu'elles comportent de bénédiction et non de son retour lorsque nous irons à sa rencontre dans les airs. Rien en ce qui concerne la mort, la résurrection du Messie dans Actes chapitre 15, versets 13 et 17, ni aucune sorte, ni quantité de preuves ne semblait pouvoir convaincre le juif ordinaire. Il fallait pour ce faire lui démontrer que cette mort et cette résurrection étaient prédites par les prophètes. Jacques se voit confier cette tâche à Jérusalem et dit « Mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Il ne cite ici qu'une petite partie d'une des prophéties d'Amos. Mais il ajoute, avec cela s'accordent les paroles des prophètes, signifiant par là que les autres prophètes avaient prononcé des paroles identiques en sens et en portée. Amos avait également prévu la chute du royaume juif symbolisé par le renversement de la maison de David, dont les descendants régnaient sur la nation. Dans les versets que cite Jacques, Amos prédit que le relèvement du pays ne pourrait avoir lieu que par une nouvelle accession au trône d'un descendant de David. Or, après la chute, aucun homme appartenant à la race, à la descendance de David ne devint roi jusqu'à ce que Jésus fût couronné au ciel. Ceci désigne par conséquent la reconstruction des ruines précédant la recherche du Seigneur par le reste des hommes, c'est-à-dire les gentils, poursuite du salut ayant débuté aussitôt après la visite de Pierre à Corneille. Romains 16, versets 25 à 27. En clôturant son puissant exposé sur la justification par la foi et l'obéissance à la volonté de Dieu, Paul confirme l'entièreté de ses arguments en démontrant que l'évangile prêché pour le salut de l'homme se trouve être en parfaite harmonie avec la prophétie. Il s'exprime en ces termes. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. La révélation du mystère que constitue pour les Juifs le fait que toutes les nations peuvent maintenant obéir à la foi et par là être justifiées s'accomplit en vertu de la prophétie. C'est ce qui permet à Pierre, le jour de la Pentecôte, de dire à la foule qui l'entoure, écoute, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. puissance de ces bénédictions prédites par les saints hommes de Dieu était et est encore le véritable espoir d'Israël. Pour l'arrêter sur l'instance, les Juifs s'écrient au roi Agrippa devant qui il comparait. « Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que tu as faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Lorsqu'on atteint la fin de l'Ancien Testament, on ressent un vide, une imperfection, comme si quelque chose d'autre devait encore arriver. Mais tel n'est pas le cas pour le Nouveau Testament, où après le dernier verset, il ne demeure plus aucune place vacante, plus de manque de pensée. Pierre nous dit, en parlant de Dieu, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La prophétie était la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Christ est l'étoile du matin et la dispensation de l'Évangile, le jour qui vient apparaître. Jude parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et tout cela constitue une finalité. Rien de ce que Dieu avait l'intention de faire pour l'homme à travers de Christ n'a manqué de s'accomplir. Les prophéties à propos du Fils de Dieu et son royaume ou église concernée, sa première venue, et non l'époque où il viendra notre rencontre dans les airs au temps de la fin, différer ces prophéties et leur accomplissement, et contourner le Nouveau Testament tout entier. Voilà d'ailleurs ce que font ceux qui enseignent le règne millénaire et terrestre de Jésus. S'il existe quelque chose de plus pour l'homme que ce qu'il peut obtenir par l'Évangile, Christ cesse ipso facto d'être la plénitude de la divinité. L'Église n'est plus non plus la plénitude de Christ. En s'adressant aux Colossiens, l'apôtre Paul les exhorte en ces termes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ne vous ravisse le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions.